Nous sommes sur la troisième émission sur l'après-effondrement. Alors, qu'est-ce que l'effondrement ? On avait déjà parlé pendant les deux premières émissions. Nous sommes en contact, en présence de Théo Toulon. Bonsoir. Notre spécialiste du sujet.
Ça va.
Et bien sûr, toujours notre meilleur service civique de la radio. Bonsoir Théo.
Bonsoir.
Alors, qu'est-ce que l'effondrement en trois mots déjà, avant de parler de l'après-effondrement ?
Alors, l'effondrement, je vais redire un petit peu ce que j'avais dit la première fois. C'est quelque chose qui est présent déjà. C'est une diminution d'une population d'êtres vivants, une diminution de la biodiversité, et c'est pour l'être humain un problème d'approvisionnement dans les ressources de base, l'eau, l'énergie, la nourriture, l'accès à la sécurité. Voilà. Donc selon de quel point de vue on se place, l'effondrement pour un habitant occidental, il est à venir, parce qu'on n'en subit pas encore les effets, parce qu'on est protégé par notre confort moderne, et pour plein d'autres civilisations dans d'autres continents, et pour le vivant, la biodiversité, c'est déjà en cours et bien entamé déjà.
Voilà, merci. Donc c'est donc à la base la fin des matières premières qui entraîne l'effondrement des systèmes politiques et sociaux.
La fin des matières premières peut être une des origines d'un effondrement. Il peut y avoir tellement d'autres causes, le climat notamment.
Bon, on en a un peu plus parlé dans la première et deuxième émission. Vous pouvez les réécouter en podcast sur le site de la radio. C'était juste pour vous faire un petit rappel. Et surtout, là, aujourd'hui, ça va être l'après. Donc, sachant que nous sommes en pleine période de l'effondrement. L'effondrement, on ne peut pas le dire à un point X. C'est toute une période. Là, on est exactement dans la période.
Exactement.
Et donc, on a découvert une nouvelle maladie de cette période d'effondrement. Ce n'est pas un nouveau cancer, ce n'est pas un problème respiratoire dû à la pollution. Mais qu'est-ce que ça peut être ? On a découvert un nouveau mot, la solastologie. Alors Théo ?
Alors oui, la solastologie, c'est quelque chose qu'on pourrait donc qualifier de... qu'on appelle même d'éco-anxiété, qui est donc une sorte de dépression et d'anxiété vis-à-vis de toutes les mauvaises nouvelles et mauvaises choses qui peuvent arriver par rapport à notre environnement et notre planète.
Et c'est la peur du lendemain de réaliser que ça va être plus comme avant et même fini.
En quelque sorte, ouais.
Oui, alors je pense que certains profils Facebook doivent être en pleine crise de solastologie, tant toutes les notifications à ponctuation régulière, genre tous les quarts d'heure, toutes les 20 minutes, selon les profils et les groupes Facebook sur lesquels vous êtes inscrit, vous avez un flot continu de mauvaises nouvelles, de nouveaux rapports, de nouvelles situations qui sont présentées, de telle manière que celui qui les lit à la chaîne comme ça, ça s'arrête jamais, quoi. À un moment donné, ça amène à une dépression, à un sentiment d'oppression et de constamment avoir un effet tête sous l'eau, et dès qu'on essaie de respirer, d'avoir une bonne nouvelle qui arrive, pof, il y a une nouvelle notification qui arrive, et puis tiens, le président de l'ONU a dit que, pouf, allez, hop, on repasse la tête sous l'eau, et là on a du mal à sortir de ce cercle-là. C'est les algorithmes Facebook qui font qu'un profil nous pousse par affinité à recevoir toujours les notifications, et du coup ça a un effet pervers, ça s'entend très bien. Après, en même temps, les nouvelles de facto ne sont pas bonne non plus, donc sans avoir un algorithme Facebook pour nous pousser, pour amplifier le phénomène, on peut tout à fait comprendre que, regardez les nouvelles qu'on a.
C'est sûr, mais c'est bien de réaliser que vous n'êtes pas seul dans cette situation. Si vous vous sentez mal avec toutes ces nouvelles et que vous sentez que vos actions n'ont pas trop de sens, si vous vous sentez dans ce système, vous n'êtes pas tout seul à ressentir ce mal-être.
Oui, et puis exactement, et surtout que le meilleur moyen de sortir de toute cette anxiété, c'est de retrouver un rapport avec la nature. Donc, le psychologue qui avait inventé le terme de solastologie avançait que sur un groupe d'une dizaine d'individus, la moitié des individus qui passent une heure en ville et la moitié des individus qui passent une heure dans la nature, sur ces individus, seuls ceux qui sont passés une heure dans la nature sont ceux qui se sentiront mieux, qui oublieront un peu cette éco-anxiété, si on peut dire.
Oui, arrêter de penser, passer à l'action directement et dans la nature.
Voilà.
Et c'est vrai qu'il y a la mise en action permet de se mettre dans un sens politique, un sens idéologique, et du coup de reconstruire autre chose qu'être récepteur d'une nouvelle. Là, on est créateur d'une solution. Du coup, ça met l'esprit complètement à l'opposé. Et du coup, ça permet de se sortir de cette fameuse solastologie. On remerciera Berouag, d'ailleurs, qui nous a émis le commentaire sur la précédente émission. Et moi, j'ai découvert le mot grâce à lui.
Pareillement. Et en fait, on en parle beaucoup. Vous pouvez chercher sur Internet. Il y a beaucoup d'articles à ce sujet.
Voilà. Donc, merci Berouag.
Merci. Ouais. Et on voulait, du coup, cette solastologie, cette peur de la fin et cette anxiété de cette fin du monde, on a réalisé qu'en fait, elle était récurrente. Ce n'était pas la première fois que l'humanité pensait s'éteindre. Que dans plusieurs religions, on a pensé aux apocalypses. Dans toutes les religions, ça, c'est écrit. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça en affabule en plus? Est-ce qu'il va y avoir réellement un effondrement? Est-ce que l'homme a besoin de se créer ses peurs pour pouvoir avancer et évoluer? Ou grâce à cette pensée, ça va...
Il y a beaucoup de philosophes, de penseurs qui ont travaillé sur la question, que je vais être très modeste dans ma réponse. Je pense effectivement, de toute façon, l'homme a toujours eu besoin de se créer ça pour se créer des mises en action, des échéances et se forger une espèce de récit. Voilà. L'homme a besoin de récits pour avancer dans son histoire. Donc c'est vrai que c'est récurrent au travers des religions, mais pas que. Il y avait aussi certains scientifiques, je sais pas, mais Nostradamus, il n'était pas religieux ou pas plus que ça. Enfin, je sais pas, mais enfin, il annonçait lui aussi la fin du monde, il me semble. Oui, bon, il y a ce qu'on appelle toute la catégorie des millénaristes, hein, le principe de ce catastrophisme de fin du monde. Bon. Je pense qu'il y a deux volets à ça. Le premier, c'est que il est bien dans le sens où il permet de mettre en action et de réaliser que même si on pourrait en douter, notamment dans les religions qui n'apportent pas de faits scientifiques, hein, les religions ont ça en commun, c'est qu'elles prédisent pour beaucoup, pas toutes, mais pour beaucoup, une apocalypse, sans pour autant qu'il y ait une science à l'appui. Pour autant, ça permet de mettre les gens dans un objectif, dans une mise en action, de faire les choses bien en se disant potentiellement ça peut arriver. Voilà.
Oui, si c'est cette réalité, ça mène pas au chaos, bizarrement. Ça mène pas à la solastologie. Ils prédisent la fin, mais en pensant que l'homme va faire des bonnes actions.
Oui, après il y a un travers complètement différent, et c'est celui peut-être qui me gêne le plus, c'est que l'apocalypse prédit dans les religions est souvent associé à l'idée de paradis qu'il y a derrière et que Dieu ferait descendre ou créer sur terre, peu importe, enfin ça dépend de la religion à laquelle on apporte sa foi, mais il y a une notion de paradis et de renouveau, derrière un apocalypse et puis un jugement dernier même pour certaines, et donc du coup ça place à mon sens plein de personnes qui auraient pu se mettre en action pour créer et combattre cet apocalypse, créer quelque chose de positif et combattre cet apocalypse, ça les met dans une espèce d'inaction en disant « Bon, ben, Dieu va nous apporter le paradis, il nous suffit juste d'être bien, propre sur nous, pas voler, pas mentir, pas tuer, être dans une bien-pensance, être dans l'amour avec son prochain, et ainsi de suite. » Alors c'est déjà extraordinaire, si tout le monde était comme ça, ce serait formidable, mais à mon sens, ça ne permet pas de combattre l'ennemi. Je reviens sur la conclusion de notre émission précédente, l'ennemi, lui, continue à détruire, et le fait d'être attentiste face à la possibilité qu'un paradis vienne sur Terre, ça me pose un problème, parce que du coup, on attend qu'une force extérieure amène un paradis. Après, c'est une foi qui se respecte. J'entends que si on a la foi dans le fait qu'un paradis arrive et qu'on y croit avec honnêteté, bon, bah, du coup, ça résout le problème. Le paradis va arriver. Moi, je ne suis pas dans cette foi-là. Donc, du coup, elle me gêne, mais de mon point de vue. Après, chacun regarde.
Et qui serait notre nouveau Dieu à l'heure actuelle ?
Notre nouveau Dieu de...
Bah, avant, c'est religion, c'est Dieu qui prédit. Juste... Dieu pouvait créer le paradis, là ça pourrait être remplacé par l'écologie, par
Est-ce là
qu'il y a l'outil pour arriver à un meilleur.
Si on oublie que Dieu pourrait nous apporter un paradis sur Terre, ça reste du coup notre besogne de le créer. Du coup, ça veut dire se mettre en action maintenant et vite, et ça veut dire être dans l'arrêt déjà de ce qui détruit. Encore une fois, on revient là pour construire derrière. Alors, on peut faire les deux en même temps. Il y a ceux qui commencent déjà à construire l'après, et il y a ceux qui combattent l'avancée de l'ennemi. Donc, les deux se font en même temps. Mais enfin, si on ne croit pas en l'arrivée d'un paradis, je crois qu'il n'y a pas d'autre choix que de se mettre en action, en mouvement en tout cas. Mais il y a de ça de différent. entre la prédiction de l'Apocalypse dans la religion et ce qui me semble être l'actualité dominante sur la fin du monde, c'est que la Bible, au-delà de et les livres de manière, les livres sacrés, au-delà de leurs prédictions, n'ont rien de rapport du GIEC factuel sur ce qui se passe maintenant. C'était des projections, c'était des philosophies pensées sur l'homme, bon, avec des signes, hein, annonciateurs. Je pense notamment à la religion musulmane qui annonçait des choses précises sur tel ou tel phénomène naturel qui allait se produire. Pour autant, on n'avait pas d'appui sur lequel se fonder, étayer quelque chose de scientifique qui dit voilà. C'est comme ça et c'est pas autrement. Là, la différence entre le millénarisme et l'effondrement
tel qu'il est pensé. Qu'est-ce que le millénarisme ?
Bah, c'est le principe de voir la fin du monde et voire même d'en créer une peur quoi, autour de ça. Là, l'idée, c'est qu'on a quand même une solide base scientifique qui nous rappelle que si, enfin, encore une fois, l'effondrement dans ce qu'il est de global est bien présent et en cours, bon. Il y a quand même pas mal de chiffres sur la biodiversité où c'est factuel. C'est pas juste une pensée religieuse, c'est quelque chose de factuel. Alors du coup, je pense que les religions vont s'en saisir de ce côté factuel de là et dire bah, on avait raison.
J'y crois pas trop que les religions vont les reprendre, à part quelques, peut-être des sectes, mais les grands mouvements sont tellement lents à bouger, je sais pas.
Peut-être même une nouvelle religion qui apparaîtrait sur ce...
Non, bon, je pense qu'on peut voir le pape qui a fait un discours il y a 2 ans, je crois, qui a quand même fait un peu le tour du monde parce qu'il justement il annonçait que le risque c'était la fin du monde, hein, et qu'il appelait à l'écologie. Donc je pense que les religions, quand elles prédisaient l'apocalypse, du coup, factuellement, le fait que plusieurs rapports nous disent que ça et ça et ça s'écroule, ça peut donner du grain à moudre en disant bah, l'apocalypse qu'on a tant prédit, elle arrive. D'ailleurs, on voit sur certains comptes Facebook et certains groupes, hein, où des gens le disent, ah, tiens, voilà, tel verset, tel machin, ça prédisait ça. Mmh. Et donc, du coup, ça peut renforcer la foi de certains et pourquoi pas même le communautarisme de certaines religions qui vont éventuellement se renfermer dans leurs croyances en disant, nous, on avait raison. Et donc, du coup, on est conforté dans notre croyances et on va vraiment s'enfermer dans notre religion en espérant que d'autres fassent l'inverse et s'ouvrent plutôt au monde en disant ben, finalement on n'était pas les seuls à avoir cette vision de l'apocalypse et du coup on va s'ouvrir à tous ceux qui pensaient comme nous et enfin solidarité, amour.
Plusieurs possibilités.
Mais tu penses pas par exemple que ce serait aussi une manière, enfin l'apocalypse, tout ça, toutes ces fins dans les religions, c'est une manière d'imposer des règles à l'homme, même dans les moments les plus sombres, comme un effondrement d'une civilisation par exemple, de dire de se comporter comme ça, que les bons se comporteront comme ça, donc si tu veux être un bon, forcément tu vas te comporter de la manière dont le livre le dit.
Bah, la gouvernance par la peur, effectivement. Voilà. Hein, si tu fais pas ci, si tu fais pas ça, il va t'arriver ci, il va t'arriver ça. Enfin, c'est clairement la gouvernance par la peur. Alors, l'État a la sienne, et puis bah, la religion a la sienne aussi. L'Apocalypse, c'est une vraie peur. Je pense que, en plus, tel qu'il est décrit, je crois que c'est l'Apocalypse selon Saint Jean dans la Bible, on retrouvera les références à peu près similaires dans les autres livres hébraïques et musulmans. Mais je pense qu'effectivement, il n'y a rien de réjouissant dans l'Apocalypse. Donc, du coup, ça fait peur. Et du coup, oui, ça a entraîné des centaines de générations à suivre des directives qui, ma foi, à mon sens, pour certaines, sont pas plus mal. Hein. Tu voleras pas, tu ne tueras pas, tu n'envieras pas ton prochain. Enfin, des règles de vie qui, à mon sens, n'étaient pas mauvaises pour l'époque, le sont toujours pas aujourd'hui. Il y a eu des excès, mais ça a permis, je pense, de mettre en ordre de marche l'humanité sur certains concepts un peu sociaux, un peu intéressants. Est-ce qu'on en est encore là aujourd'hui ? Est-ce que l'homme a encore besoin de cette peur de l'apocalypse pour bien se comporter ? Ou est-ce que quelque chose de plus scientifique les poussera à être de manière plus pragmatique, écologiste et anticapitaliste, anti-civilisationnel ? Je ne sais pas. En tout cas, ça a eu ce rôle-là, je pense, effectivement.
Le temps nous le dira. Et quelle va être la différence, en fait, des dernières civilisations qui ont disparu, les Égyptiens, les Mayas, par rapport à notre civilisation ? Parce qu'il faut se le rappeler, on n'est pas les premiers à peut-être disparaître. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Je vais faire un petit clin d'œil à Édouard. Édouard, notre cher Premier ministre, tu nous entends, je te salue. Il cite régulièrement, M. Édouard Philippe, un livre, Jared Diamond, qui est l'auteur, qui s'appelle « Effondrement ». et du coup qui étudie la chute de ces civilisations. Alors je ne m'avancerai pas dans le contenu du bouquin parce que je ne l'ai pas lu. Je vais juste moi me positionner sur un point. Il me semble que ces civilisations-là se sont éteintes à partir du moment où elles ont commencé à devenir de plus en plus complexes. Il semble que c'est un des points qui les relie. Et l'étude des systèmes montre qu'au plus un système devient complexe, au plus il a la possibilité de s'effondrer. Un deuxième point que j'y verrai, c'est que à l'époque de ces effondrements systémiques et de ces civilisations, la capacité de nuisance de l'homme, c'était 2000 calories par jour. Autrement dit, la capacité d'un homme seul à détruire sans machine, sans outils de production. Donc du coup, les effondrements ont beaucoup moins fait de mal à la biodiversité et à l'entourage, proportionnellement à la puissance calorique par individu que l'on a, notamment dans les pays occidentaux. Donc je pense que si à l'époque, une civilisation maya, romaine, égyptienne s'effondrait, ça ne touchait à la limite que les limites de leur civilisation et de ce qu'ils extrayaient de la terre avec leur capacité de nuisance.
Puis les humains étaient encore présents en fait, hein. C'est que juste le système est tombé. Mais
les humains sont restés bien présents.
Et puis on a encore des restes de leur civilisation, le code romain, Napoléon a repris, toute leur pensée a été récupérée.
Oui. Et je pense qu'il peut en être différent d'une possible fin de civilisation actuelle qui est carrément globalisée et qui, par son effondrement, touche déjà d'ailleurs la majorité de la planète, non seulement les humains, mais l'ensemble du vivant qui est avec. Et je dirais même que contrairement à ces civilisations passées, où... Bon, les scientifiques me contrediront ou pas, notamment Jared Diamond, mais il me semble que l'humain s'est d'abord effondré et il n'a touché que l'humain ou très peu ce qu'il y avait autour. Et là, aujourd'hui, dans l'effondrement qui nous concerne aujourd'hui, c'est d'abord le vivant qui s'effondre, majoritairement la biodiversité et les espèces, que les pays pauvres et les humains sont ensuite touchés et qu'en dernier lieu, celle-là même civilisation qu'on dit qui s'effondre n'est encore pas touchée parce qu'elle est bien au confort. Et du coup, je pense que le processus est un petit peu inversé, mais j'y ai mis de la réserve parce qu'encore une fois, je n'ai pas étudié ces effondrements civilisationnels. Donc,
en tout cas, c'est ce qu'on en comprend quand on fait la définition de l'effondrement, c'est ce qu'on cite, d'abord matière première, puis après le système.
De toute façon, c'est ce qui se passe là actuellement, c'est ce qu'on observe, hein. C'est un effondrement du vivant et des matières premières.
Après, on peut prendre aussi comme exemple l'effondrement de quelque chose de plus récent, c'est celui de l'URSS qui s'est passé donc il y a une vingtaine d'années, dans les années 90. Et donc après, avec les années 90 en Russie, qui ont été quelque chose de terrible, et toute la chose n'est pas arrivée par les ressources ou par forcément... Et là, c'est parti d'un système politique.
Mais la
Et il y a eu quand même jusqu'à 1000% d'inflation, c'est-à-dire des prix qui explosent, plus personne qui peut se nourrir dans les populations pauvres. Il y a eu une mortalité infantile qui a éclaté, jusqu'à 400 000 morts par an chez les enfants, chez les nouveau-nés. Une baisse de la population et ils ont vraiment vécu pendant 8 ans le cycle d'un effondrement. Et bon, ils ont eu le truc, c'est que la Russie n'est pas seule au monde, il y a eu un monde tout autour. Et avec la rehausse des matières premières, des matières fossiles et de l'acier, ils ont pu se ressortir la tête de l'eau, si je puis dire. Mais on voit que quand même, un effondrement peut avoir des gros impacts sur une société moderne, rien qu'en 4-5 ans, quoi.
Mais là, on parlerait sur ce l'effondrement dont on essaie de comprendre et d'expliquer dans ces émissions. Ce serait vraiment un effondrement plus global, quoi. Ce serait que... Plus rien n'arriverait à pousser dans nos terres si on évolue de cette manière, par exemple. Ce serait même se nourrir qui serait compliqué.
Oui. Alors, pour autant, l'exemple de la Russie est intéressant. C'est Dmitri Orlov qui a fait son bouquin « Les cinq stades de l'effondrement » et qui s'est appuyé justement sur cette chute de la Russie dans les années 90. C'est intéressant parce que c'est ce que tu disais, l'effondrement pour le coup n'a pas eu lieu pour une cause écologique mais plus une cause politique, et que dans notre société actuelle, l'effondrement, même s'il est de la biodiversité, l'épuisement des sols, tu le dis très bien, la capacité à se nourrir va être une grosse problématique parce que nos terres sont aujourd'hui quasiment stériles du fait qu'on a injecté tellement de produits chimiques dedans que même Si on voulait passer sur un mode de permaculture pour nourrir l'humanité et se changer, on va avoir un sérieux problème. C'est que pour que la permaculture fonctionne, encore faut-il que les terres sur lesquelles on mette de la permaculture soient fertiles. Aujourd'hui, on a plutôt tendance à les infertiliser et surtout à accélérer le nombre de terres qu'on utilise et qu'on infertilise. Donc du coup, ça va être sérieusement problématique. Mais ce qui est intéressant, c'est que même si la cause d'un effondrement globalisé, ça pourrait être la biodiversité et tout ce qui est écologie, en tout cas, il n'empêche que l'exemple de la Russie, ça a entraîné d'abord une chute politique et économique, et qu'on pourrait d'abord subir ces effets-là avant de subir ceux pleinement du réchauffement climatique ou de la biodiversité. Il y a le Brésil, par exemple, à certaines époques, a subi un effondrement économique où, arrivé la carte bleue au distributeur, il n'y a rien qui sort, la banque, elle donne plus rien. Donc là, il y a du jour au lendemain, toute une population qui était habituée à vivre avec une monnaie et avec des échanges normalisés dans un système économique normalisé, qui sont nés dans ce système-là et qui ne connaissent rien d'autre, du jour au lendemain, il faut faire autrement, parce que la monnaie ne vaut plus rien et qu'elle n'a plus cours parce qu'il y a effondrement économique. Ça nous pend au nez aujourd'hui, peut-être même avant les résultats de l'effondrement.
Ça nous changerait de système.
Pourquoi pas, ça me gêne un peu, parce que quand on voit la mortalité qui s'est engagée, ça pose problème quand même.
Au dernier moment, on va vite à la campagne et on essaie de...
Bon alors, pourquoi pas ou pourquoi ? Non mais c'est intéressant, c'est-à-dire qu'il y a les deux versions. Il y a pourquoi pas ? Effectivement, ça peut s'entendre, précipitons la chute du système avant qu'il ne détruise trop, et si ça doit partir par une chute du système économique, ça peut commencer par là. Ça va déstabiliser un système économique qui tombe, ça déstabilise socialement tout un peuple. Du coup, une déstabilisation sociale, ça fait une déstabilisation politique. Une déstabilisation politique, ça crée une déstabilisation de l'ordre de manière générale, et ça crée le chaos, et du coup, notre effondrement, au moins à l'échelle d'un État, peut être très vite consommé. Est-ce que c'est souhaitable ? L'écologie radicale dira oui, au plus vite l'État capitaliste et productiviste s'effondre, tant mieux, ça évitera qu'il continue à détruire la planète. Il n'empêche que ce soit subi ou provoqué parce qu'on a envie d'anticiper sa chute, parce qu'on n'a plus envie de cette destruction, ou que ce soit subi parce que l'État s'effondre lui-même ou que le capitalisme s'effondre lui-même, d'empêche que les conséquences sont les mêmes, qu'on voit qu'il y a un taux de mortalité absolument extraordinaire au niveau de la santé, enfin tout ce qui est lié à la santé, le taux de mortalité infantile, taux de mortalité à la naissance, mort précoce des personnes qui étaient en soins et qui ne pourraient plus l'être, mort précoce des personnes âgées dont ce qu'on prolonge la vie aujourd'hui par nos technologies ne pourrait être plus le cas, quantité absolument extraordinaire de maladies dont on se rend même pas compte qu'aujourd'hui on les soigne grâce à cette technologie, grâce à l'électricité qui permet aux hôpitaux de tourner, qui permet aux usines de production de médicaments de tourner, qui permettent aux pharmacies de distribuer ces médicaments-là. Demain, un effondrement et économique et politique et social et de l'ordre établi de manière générale, ça va apporter une diminution forte de la population pour les raisons que je viens d'évoquer, donc des morts et des souffrances. Donc dans tous les cas, c'est quand même pas très réjouissant. Sur l'astrologie, quand tu nous tiens.
Je vous propose de faire une petite pause musicale sur un groupe choisi par notre invité, Théo.
Oui, alors pour le coup, c'est Kenny Arcana, je crois, sur lequel on s'est, on s'est fixé. Et puis, Désobéissance civile, ce serait pas mal.
Voilà, je vous laisse profiter. Bonne écoute.
Trop nombreux sont ceux qui ont oublié le passé. L'histoire de l'homme, une honte, faut-il te le ressasser? Le monde, une spirale où les mêmes erreurs sont retracées. À force de côtoyer l'horreur, nos cœurs sont devenus glacés. Nous parle que de profit, la condition de l'homme effacée. Mondialisation et concurrence sont leur unique phrasé. Les peuples unitéralement écrasés, la création menacée. Multinationales et croissance ont tracé leur route sur nos libertés. Ils ont juré, craché, créé un entrave à la leur. À l'heure où les dictatures sont cachées, à cause de leur profit immédiat, l'avenir est gâché. Cette bande d'ingrats ont réduit la planète à un grand marché. La loi des plus riches et beaucoup crèvent avant d'être âgés. Protestation dite criminelle si tu les as outragés. Ils mentent lorsqu'ils disent que le mal-être n'est que passager. Puis s'étonnent quand la nature se rebelle comme un peuple enragé. Disaient transparents alors que de sang leurs mains sont tachées. Déconseillent fortement d'avoir des idées trop engagées. Accélération de leurs plans depuis que des avions se sont crashés. Et toi, dis-moi dans quel sens au système es-tu attaché? Ils prêchent le blasphème et la vraie lumière se fait lyncher. Mais la corde au cou dans certains pays, elle a lâché. Parle de justice alors qu'à la racine ils l'ont arraché. Les plus gros engrais sur la tête de ceux qui n'ont rien à mâcher. Voilà le monde d'aujourd'hui, paraît que leur plan a marché. Nous vendent un progrès. progrès technique qui dans le fond a tout saccagé. Par dévolution quand notre humanité s'est fait hacher. Notre cœur ne bat plus vraiment et notre inconscient est fâché. Stress, angoisse, cancer, dépression, notre compte s'est chargé. Mais on cherche pas la cause et les effets qu'on aimerait chasser. Philosophie fast-food pour que nos consciences soient terrassées. Au nom de la dignité humaine, nous avons dit assez. Désobéissance civile. Désobéissance civile.
C'est une résistance contre un système qui crée le terreau favorable à la haine de l'autre, au racisme et au mépris.
Le refus de coopérer, de collaborer avec l'autorité.
Même si on marche séparément, on doit frapper ensemble.
Il y a quelque chose, une injustice quelque part, on descend tous. Il y a un problème quelque part, on descend tous.
Notre place, c'est de la désobéissance civile, c'est pas de la violence.
On a une place énorme, une responsabilité énorme dans ce qui s'est joué et ce qui se joue et ce qui va se jouer dans l'avenir.
Donc nous voilà de retour après cette courte pause musicale. Et donc...
Nous allons reprendre sur l'effondrement et les solutions de l'après-effondrement. Et oui, chacun réfléchit à sa manière, il y a différents mouvements, il n'y a pas qu'une seule solution. On verra bien qui prendra, il y aura toujours un majoritaire, mais à l'heure actuelle, il y a plusieurs chemins qui se dessinent. Donc il y a celle un peu dure, celle qui est, quand on la rencontre une fois, on a un peu effrayé suivant les personnes, le survivalisme. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Théo, du survivalisme ? Et qu'est-ce que c'est ?
Alors, le survivalisme, il y a sa définition communément acceptée et qui est un peu galvaudée, je trouve. Le survivalisme, c'est cette idée qui nous vient des États-Unis qu'on va s'enfermer dans son bunker avec de 1 ou 2 ans de vivre pour essayer de survivre à l'apocalypse. Et,
Oui, quand on est nos vies, c'est ce qu'on connaît, en fait. Moi, c'était ma première idée, c'était bien celle-là.
Voilà, c'est cette forme extrême de survivalisme qui a été un peu médiatisée par des récits cinématographiques ou des livres. Voilà, bon. Le survivalisme, si on prend le terme à sa base, c'est juste adapter un mode de vie pour la survie, quoi. C'est juste se mettre en mode je cherche à survivre et je me mets en action pour ça, quoi. Je me mets en action pour ça. Donc du coup, le survivalisme peut être aussi bien dur que doux. On peut avoir des gens qui sont dans le survivalisme tout à fait d'ouverture sur des rencontres entre différents protagonistes qui sont dans une zone locale assez restreinte, par exemple, et qui vont mettre en commun leurs ressources pour essayer de faire une bulle de survie dans une zone assez localisée et d'essayer de survivre à une agression qui viendrait de l'extérieur. Il y a quand même cette pensée-là dans le survivalisme de l'agression, alors qu'elle soit l'effondrement lui-même ou qu'elle soit une agression d'une migration qui viendrait... il y a aussi ça, hein, cette pensée-là dans certaines formes de survivalisme, qu'il y a une forte migration des villes vers les campagnes qui va se faire, ce qui n'est pas déconnant en soi quand on sait que l'autonomie alimentaire de Paris ou d'une grande ville française, c'est 3 jours. Bon, on va vite comprendre que les gens qui vivent dans les villes vont vite avoir faim et que naturellement ils vont se tourner vers les campagnes. Donc il y a ce survivalisme là solitaire, je me bunkerise, je m'arme et je me défends, le premier qui touche à mes vivres je le bute. Ça c'est la forme assez violente, assez radicale.
Survivalisme américain, cinématographiquement parlant, c'est magnifique.
Oui, bah ça fait de...
C'est une continuité du capitalisme, quoi.
Oui,
stocker, garder pour soi, avoir son terrain, c'est vraiment la continuité du capitalisme après l'effondrement, quoi.
Complètement.
Oui,
juste j'allais venir en disant il y a le second survivalisme le plus doux qui est plus basé sur l'entraide et sur la solidarité pour essayer de créer quelque chose qui soit viable au local. Donc ça, c'est quand même un peu plus acceptable. Et puis, dans cette notion-là, il y a quand même, on est plusieurs et on fait une bulle. Hein. Et après, il y a le survivalisme qui est complètement ouvert et qui reconnaît l'interdépendance des gens les uns vis-à-vis des autres et qui, certes, se prépare à un effondrement et se disent, il va falloir qu'on y survive, qu'on trouve nos propres moyens de subsistance et de vie et qu'on repense société, mais on va le faire dans un contexte d'ouverture. Voilà. Donc je pense que ce sont les 3 niveaux de survivalisme, mais ça reste... ça reste du survivalisme.
Donc la base commune, c'est réussir à se débrouiller seul, de vivre en autonomie. Donc il y a les personnes qui vont plus garder des stocks et des personnes qui vont apprendre à chasser, qui vont essayer de vivre avec le minimum syndical en forêt, et ou au contraire la maison super équipée qui peut être ultra fonctionnelle pendant longtemps aussi.
Je pense que tous ces modes de pensée sont justes, ils existent dans le courant survivaliste, et puis il y a aussi sans revenir à la chasse et aux chasseurs-cueilleurs, où je pense que ça va être quand même un petit peu compliqué, parce que si encore on avait des baies ou si encore on avait des animaux sauvages à chasser et à cueillir, ça pourrait être le cas. Aujourd'hui, malheureusement, ce qu'on laisse de la biodiversité et du vivant, il ne nous reste plus que 4% d'animaux sauvages, donc ça va être compliqué de partir à la chasse. On ne va pas être nombreux à pouvoir s'en nourrir. Non, je pense que c'est le côté positif du survivalisme, dans le sens où il faut survivre à un effondrement. Encore une fois, le survivalisme, il s'entend aussi parce que les Occidentaux imaginent l'effondrement de leur mode de vie. Hein. Encore une fois, l'effondrement, il est déjà arrivé pour plein d'autres situations dans le monde et plein d'autres populations. Mais l'idée, c'est de se dire, il y a quand même tout à reconstruire. Et là, ça veut dire repenser comment on fait société, comment on prend les décisions ensemble, comment on gère les priorités, comment on fait évoluer une famille dans ce contexte-là, comment on politise un post-effondrement capitaliste. C'est-à-dire qu'il ne faut quand même pas oublier que les humains sont profondément politiques et que du coup, ils vont devoir faire société, ils vont devoir faire des choix, ils vont devoir reconstruire de nouveaux modèles. Et ça fait aussi partie de la pensée survivaliste. Il faut vraiment s'extraire de cette idée américaine du survivalisme où je suis en autonomie tout seul et c'est moi-je. Il y a aussi cette frange du capitalisme, le lapsus du survivalisme où il faut qu'on fasse société. Et il va falloir reconstruire les échanges, simplement les échanges, dans les échanges de pensée, les échanges de biens, les échanges de récits. Après l'effondrement, la culture ne va pas s'arrêter. Enfin, espérons-le, il faudra recréer de la culture, il faudra...
Pour la croissance de la culture, c'était un peu la fin de l'émission de la semaine dernière.
C'est ça.
On est pour la croissance, mais dans certains domaines.
Dans certains domaines. Et je pense que c'est d'ailleurs ce qui sera un formidable remède à la solastologie. Il y aura plein de gens dont il faudra qu'ils se reconstruisent entièrement après avoir tout perdu de leur imaginaire et de leur futur. Et il y aura sûrement un besoin énorme de culture pour essayer de se reconstruire intérieurement, se reconstruire du récit, se reconstruire un futur, avoir une vie qui a à nouveau du sens au-delà du simple fait de manger, boire. Et puis surtout... De se dire qu'est-ce que sera l'homme demain. Je pense que ce sera une question aussi de se projeter dans les 20-30 ans à venir qui pourra être aussi intéressante. Et je pense que le survivalisme, c'est tout ça. C'est pas juste cette notion de dire qu'est-ce que je vais manger. Alors, ce sera une question qui sera posée. Je pense que le survivalisme est un peu à l'image de l'effondrement. Il y a l'effondrement immédiat qui se produit et l'effondrement à long terme de toute une civilisation. Là, il y aura le survivalisme immédiat. Et où je pense que les survivalistes extrêmes n'ont pas tort sur certains points. Il pourra y avoir des scènes de pillage, de violence. Il y aura une forte adaptation pendant lesquelles les tensions seront exacerbées entre les différentes populations, celles de la ville, celles de la campagne. Et il y aura une espèce d'équilibre qui va se refaire avec de nouvelles donnes sur qui est le riche, qui est le pauvre. Est-ce qu'il y aura vraiment encore une notion de racisme qui pourra se mêler à tout ça quand les deux auront faim entre le noir et le blanc? Est-ce qu'il y aura encore un racisme valable ou pas? Il y aura un formidable équilibre qui va créer des tensions, et oui, à un moment donné il y aura un besoin de sécurité, de protection, de défense et de tout ce qu'on veut, mais n'en faisons pas quelque chose de majoritaire dans le survivalisme. Ce sera une transition, une phase, et derrière il faudra qu'on reconstruise, et surtout qu'on reconstruise avec cet important fil rouge qu'il faudra qu'on ait en tête: ne pas reproduire le capitalisme et ne pas reproduire la civilisation. Et pourtant on aura été biberonné à ça.
Quand on chute, on retombe dans le travers après, parce qu'on connaît que ça.
C'est normal, on aura été éduqués à ça. Enfin, tout notre système de pensée aujourd'hui est basé sur la consommation et le capitalisme. Ça va être quand même une révolution intellectuelle pour les gens qui vont, et nous espérons-le, hein, qui vont être post-effondrement capitaliste. Encore une fois, je me pose du côté de l'Occident, hein, mais de devoir penser un futur en ne pouvant s'appuyer sur aucun des modèles qui ont fait ma vie jusqu'à présent. Voilà, il est complètement balayé, se servir de l'histoire quand même, se servir des récits et de l'expérience quand même, parce qu'on balaye pas, on jette pas le bébé avec l'eau du bain, mais quand même tout ce qui faisait les fondements de notre construction intellectuelle, il va falloir s'en passer et se créer de nouveaux récits, de nouveaux fondements pour dire, eh ben voilà, la civilisation ça marche pas, le productivisme ça marche pas, reconstruisons tout. Bah, ces bases, il va falloir se les créer, ça va pas être évident, mais ça va être jouissif, je pense.
Bon, on se les recrée au fur et à mesure, donc on a vu donc, le survivalisme, et aussi encore une méthode encore plus douce, ça va être la permaculture en fait. Continuer à vivre en ville, parce que donc là on a parlé de ces personnes en général sont dans l'exode au niveau de la ville vers la campagne. Là on parle vraiment d'un changement de la ville, et de pouvoir faire de la permaculture en ville. Et de faire des fermes urbaines. Bon, quand on dit permaculture, voilà, il y a deux branches aussi. En fait, dans chaque sujet, il y a deux branches. La permaculture en ville et aussi les éco-villages dans les villages, hein, donc plus dans la campagne.
Alors, je pense que l'éco-village, c'est un mode d'organisation et la permaculture, c'est un mode de production alimentaire. Donc,
mais les deux...
Mais c'est vrai que la permaculture à la campagne et à la ville, dans un contexte urbain ou dans un contexte d'éco-village, peuvent être pensés différemment. Enfin, à la base, la permaculture, c'est essayer de produire de la richesse alimentaire en s'adaptant à l'environnement proposé par le contexte.
Ouais. Ouais.
Donc du coup, effectivement, la permaculture à la ville, ça va être quand même quelque chose d'un peu compliqué à mon sens.
Non, mais c'est réutiliser des terrains, en fait.
Oui.
Dès qu'il y a terrain, essayer de les prendre pour faire de l'agriculture. Alors c'est nouveau, parce qu'en fait, les villes avant étaient beaucoup plus petites. L'endroit où il y avait encore de la ville, c'était vraiment de l'agriculture. Donc on n'a jamais intégré.
C'est ça, ça va être...
Enfin, ça va être de la nouveauté. À Détroit, il y a des endroits, des quartiers de Détroit qui est une ville qui a complètement été abandonnée. C'était une ville de 1,5 million d'habitants qui est passée pratiquement d'un seul coup à 200 000 habitants. Donc ça fait des quartiers qui sont complètement déserts et abandonnés. Il y a un énorme pâté de maisons dans un quartier là-bas qui n'est pas très loin du centre-ville, qui a complètement été rasé et où ils en ont fait un grand champ de permaculture qui sert de ferme urbaine pour tout le quartier en fait.
C'est l'avenir, de toute façon, la permaculture. Et c'est ça, les fondements de la permaculture, ça va être s'adapter à l'environnement qui va nous être proposé et nourrir les gens là, à l'endroit où ils se trouvent. Donc autant ça va être dur en ville de trouver un environnement propice tellement on a bétonné, pollué, ainsi de suite. Autant les ceintures vertes existaient déjà, il y a encore pas si longtemps, hein, pour nourrir les villes. On faisait des grosses ceintures vertes autour des villes qui permettaient de les nourrir. Ça, il va falloir qu'on revienne, qui n'existe plus, mais il va falloir les repenser.
Sur Marseille, on a beaucoup de terrain, en fait, où l'agriculture est possible. C'est juste que les autorisations n'y sont pas, que la volonté n'y est pas aussi, mais en soi, il y a possibilité.
Mais on le fera. De toute façon, l'homme est extrêmement créateur. Je pense qu'on sera au pied du mur. De toute façon, on aura faim. Donc, je pense que ce sera une nécessité de venir à la permaculture et qu'on prendra tout ce qui est possible et imaginable comme idée, comme solution, comme stratagème pour mettre en place cette permaculture et la faire avancer. Ce sera une stratégie qu'il faudra qu'on mette en place et en faisant attention, encore une fois, à ne pas tomber dans le travers. Une permaculture, pourquoi ? Pour nourrir l'homme, oui, mais pas pour faire de l'abondance et faire du merchandising aussi. Ouais. Toujours pareil, il ne faudra pas attendre de la permaculture qu'elle ait la même fonction que ce qu'est l'agriculture aujourd'hui dans son rôle marchand, quoi. Ce sera de la permaculture locale pour le local. Et il faudra quand même, il faut penser dans cette permaculture-là que la mobilité sera complètement réduite et que du coup, il faudra vraiment essayer de faire cette permaculture au local, qu'elle soit aussi diversifiée que possible pour qu'elle puisse se suffire elle-même au local sans qu'on ait besoin de faire des échanges absolument énormes en disant bah là on produit ça, là on n'en produit pas, il faudrait amener ça, importer ça, exporter ça. Il faudra oublier ce mode de pensée ou au moins fortement le diminuer et d'essayer de faire une permaculture. Ça va être jouissif d'inventer tout ça. D'ailleurs, il y a des gens qui y sont déjà. Enfin, on parle de la permaculture comme si c'était le futur, mais je vous invite à aller voir sur Internet de nombreux sites sur la permaculture qui proposent déjà de préparer l'effondrement. Et c'est en ça que c'est génial, la permaculture. Je pense qu'ils sont peut-être les premiers à avoir pensé l'effondrement et la résilience. La permaculture est profondément résiliente et c'est une grosse préparation, un gros mouvement de permaculture aujourd'hui qui
Vous pouvez faire des stages très facilement. même sur Marseille, vous pouvez observer déjà comment, qu'est-ce que ça donne. Hein. Il y a plein de jardins entre le talus qu'on allait voir avec Théo, ou Terre de Mars, ou même un jardin en centre-ville qu'il fait à côté de... Excusez-moi, à côté des réformés aussi, un jardin qui peut se visiter. Donc, il y a vraiment des possibilités, et de plus en plus.
Je pense que la permaculture va être l'avenir, va faire partie de l'avenir et fait partie aussi du présent. Dans le sens, je reviens à Deep Green Resistance, qui est ce mouvement qui d'écologie profonde et radicale qui se met en action contre le capitalisme aussi. Dans les récits de DGR, il est dit aussi que chacun sa lutte et que parmi les luttes, il y aura ceux qui se confronteront au capitalisme et il y a ceux qui commenceront à préparer la résilience. Cette résilience qui sera à la fois un outil pour préparer le futur, mais aussi un outil de logistique pour ceux qui luttent au présent, pour laisser le champ libre, le temps et à l'action. Permettre à ceux qui vont être au combat direct face au capitalisme de pouvoir continuer à se nourrir, continuer à se loger, avoir une vraie logistique de combat, ça va nécessiter que d'autres aujourd'hui produisent de la nourriture, produisent des systèmes sociaux autonomes, résilients et accueillants pour ces militants qui eux seront occupés à détruire les derniers remparts du capitalisme et sauver le vivant. Donc je pense qu'il y a aussi ça dans la permaculture, c'est que non seulement elle va nourrir, non seulement elle est éthique et tournée vers la nature, mais en plus elle a une fonction de combat aussi puisqu'elle permet la logistique de ceux qui seront les militants de la lutte directe, en confrontation directe avec le capitalisme et ce qui détruit le vivant. Donc il y a aussi cet aspect-là dans la permaculture qui est un vrai soutien pour le combat.
Et aussi ils peuvent se rassembler en éco-village. Est-ce que tu connais le principe un peu d'éco-village, tu en as visité?
Alors j'en ai pas visité, j'en ai beaucoup observé au travers de leurs publications sur internet, ce dont j'ai conscience que ce n'est vraiment pas suffisant. La seule chose que je peux dire sur ces éco-villages, c'est qu'ils sont en nombre croissant aujourd'hui, que beaucoup de gens sont à la recherche et qu'il y a une telle recherche aujourd'hui de s'allier à des éco-villages que c'est un peu bouché, c'est un peu difficile. Moi j'ai un ami, salut Dany si tu m'entends, qui cherche depuis longtemps à rejoindre un éco-village, quelque chose qui soit sensé, quelque chose qui soit dans une culture qui lui aille et qui soit posé pour pouvoir accueillir une famille, un vrai mode de vie. Et force est de constater que les offres pullulent, mais que c'est très vite pris, enfin, faut être très réactif pour trouver une place dans un éco-village.
Bon, c'est bon signe alors.
C'est bon signe, avec un travers dans lequel il ne faut pas tomber, c'est juste le petit point d'exclamation à dire attention, se mettre dans un éco-village et faire sa petite bulle, ce n'est pas partir au combat. Donc il ne faudrait pas qu'il y ait que des éco-villages et qu'on en oublie le combat du capitalisme qui continue à détruire. Il faut vraiment que ce soit deux choses en parallèle.
Oui, bien sûr.
Voilà.
Mais ça peut être une solution, peut-être qu'il n'y aura pas besoin de combat. Si tout le monde rentre dans ce milieu comme ça, les grandes sociétés baissent. Bon, moi, je suis allée dans le milieu pharmaceutique, Mustela, il disait qu'ils ont perdu en part de marché parce qu'en fait, finalement, toutes les mamans, elles ne veulent plus prendre ce genre de produits.
Et c'est bien tant mieux.
Et voilà, du coup, ça peut se faire sans guerre, en fait. Mais bon, là, c'est le sujet de la semaine dernière. Soyons pacifiques ou pas.
C'est même pas le pacifisme ou la violence. Je pense qu'il y a une question. Est-ce qu'on est passif ou actif? Mais je pense qu'on peut même aller dans ce raisonnement-là.
Non, il y a pas, c'est pas binaire comme ça, je pense.
Sans que ce soit aussi binaire, je te l'accorde. Hein. Tu as complètement raison. Mais est-ce qu'on est passif ou actif face à celui qui détruit, je dirais? C'est ça, parce que le fait d'aller préparer le futur et de se mettre dans un éco-village, le fait de se mettre à l'abri et de commencer à construire le futur, encore une fois, c'est nécessaire. Et je ne le nie pas. Il faut y aller, il faut le faire, il faut être dans cet esprit-là. Pour autant, il faut quand même continuer à être actif face à celui qui nous oppresse, quoi. Et c'est vraiment la part oubliée de la lutte aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on met tellement en avant la permaculture, les éco-villages, il y a tellement de sites, de groupes Facebook qui vont être sur cette thématique-là parce qu'elle est est d'une part alléchante parce qu'elle permet de s'y retrouver en termes d'éthique. Je ne connais pas beaucoup de personnes dont l'éthique soit le combat et voire la violence, mais c'est tellement peu éthique, surtout pour des gens qui ont conscience de l'effondrement, de se dire je vais me mettre en mode combat. C'est tellement antinomique les deux que finalement il va pulluler des informations sur les éco-villages, le repli sur soi, la solidarité, l'entraide dans la mise en place de permaculture et de solutions résilientes, qu'on en oublie qu'en face le rouleau compresseur est là et que du coup il faut être vis-à-vis de lui. Je dis pas que faire de la permaculture n'est pas être actif, c'est un activisme, mais c'est passif face à celui qui nous agresse. Face à l'agresseur, ça reste passif, ça reste un repli. Et donc du coup j'aimerais bien aussi qu'on fasse un petit peu la promotion de la mise en action et c'est
super lien. Tu arrives à la troisième partie. SOS Mer, c'est bien
SOS
ça?
SOS Mer, très bien. Qui est une association qui milite pour que les municipalités se saisissent de la problématique de l'effondrement et mettent en place des solutions. Donc c'est Alexandre Boisson qui porte ça principalement et il propose des outils aux municipalités pour continuer à garder une gouvernance de leur municipalité en mode résilience, en mode je me mets au service de la population pour faire en sorte que les ressources vitales pour une population, pour qu'elle puisse continuer à vivre sur le territoire, soient disponibles, organisées, et que cet effondrement ne soit pas subi, mais soit, comme je disais la dernière fois, organisé, accompagné. Et donc du coup, c'est toute une batterie à la fois d'outils informationnels. Je prends mon équipe municipale, je l'informe des risques, je lui donne les outils pour comprendre quelle est la nature du risque et son ampleur. Et derrière, on est force de proposition pour dire voilà ce qu'une mairie a à sa disposition aujourd'hui, actuellement, et comment elle doit réfléchir pour que ce qu'elle a à disposition aujourd'hui puisse fonctionner en autonomie demain. Parce que quel va être le meilleur rempart à la violence, quel va être le meilleur rempart justement à tout le chaos, c'est de l'ordre, et de l'ordre qui pourrait continuer à être organisé, institutionnalisé, et la municipalité, c'est elle qui est finalement la plus proche du quartier, c'est elle qui est la plus proche de l'habitant qui va être en demande et en besoin, et c'est finalement peut-être vers là que les habitants vont se tourner aussi, vers leur politique le plus proche, et il faudra qu'il y soit préparé, et intellectuellement, et en termes de...
C'est une pensée.
Aujourd'hui, quand même, il y a la moitié de la population sur Terre qui vit dans des mégapoles. Les mégapoles, c'est quand même des millions d'habitants. Et je vois difficilement quand même comment, là, la municipalité pourrait aider dans ce truc qui devient presque des pays, en fait. Quand on doit gérer la vie de millions de personnes, quoi, ça devient plus compliqué.
Il me semble que la solution va être que la municipalité se décline en arrondissement. En quartier. Je pense notamment à un outil qui est à disposition des municipalités déjà aujourd'hui. C'est prévu par le ministère de l'Intérieur, intérieur.gouv.fr en cas de catastrophe. Vous avez les réserves citoyennes de sécurité civile qui existent, qui sont mises en place par les mairies et qui clairement disent on s'appuie sur les populations au local dans le quartier pour pouvoir être le noyau organisateur des secours au moment où la catastrophe arrive, et être à une aide à la fois à la mairie pour une remontée d'informations, quelle est la situation dans le quartier, parce que moi de la mairie je le sais pas, je le vois pas, de quoi vous avez besoin. En gros, c'est faire un lien direct entre la population sur le quartier, les moyens qu'elle a pour agir, et la municipalité. On pourrait très bien imaginer que ces réserves communales de sécurité civile aujourd'hui qui existent à des fins de secours, alors je parle d'inondation, je parle de tout ce qui est plan hors sec, en fait aujourd'hui c'est prévu pour ça, mais on pourrait très bien imaginer des réserves communales de sécurité civile qui soient émancipatrices d'un effondrement, et qui puissent se prévoir sur comment un quartier se gère tout seul sur du plus long terme que post-inondation, par exemple. Et ça, c'est des outils qui sont organisés, qui existent déjà. Alors, qui repose sur un principe entre guillemets démocratique d'élection d'un maire, d'une équipe municipale, et tout ça pourrait être remis en cause dans son fondement démocratique. Comment on élit un maire, comment se crée une réserve communale de sécurité civile. Enfin, tout ça, c'est quand même un processus politique qui existe aujourd'hui, qui demain n'aura peut-être plus lieu. Enfin, je veux dire, la démocratie, on la pensera peut-être plus comme ça. Mais d'empêche que réfléchir au fait que à l'échelle d'une localité, il y ait quand même une organisation possible, c'est pas déconnant, et que ça puisse se décrire au plus près des quartiers, c'est pas déconnant non plus. Maintenant, il y a une autre pensée à ça, hein. Il y a sa contre-vérité qui est l'anarchisme, où certains prêcheront l'anarchisme en disant SOS maire, non, surtout pas, ni Dieu ni maître, et surtout pas de maire, et laissez-nous, nous en tant que citoyens, nous faire nos éco-forums, nos maîtres. Nos assemblées populaires et tirer nos propres lois et nos propres besoins sur le moment, dans l'environnement qui nous sera présenté par une population qui sera libre de toute forme politique. Et ça peut très très bien se produire et ça peut très très bien être poussé, justement parce que la force politique aura été assimilée dans l'imaginaire des gens comme au service du capitalisme, et donc du coup du fait de fuir tout ce qui va ressembler à ce qui existait avant et de dire non, attends, toi le maire, tu étais celui qui existait et qui a permis que ça s'effondre, et donc du coup je veux pas t'entendre parler, je veux même pas entendre ta voix, je préfère qu'on s'organise entre nous et vive l'anarchie.
Plusieurs possibilités.
Oui, c'est vrai que c'est tellement vaste sur le sujet qu'on a tellement de choses à dire.
Il y a aussi le mouvement Bérouag. Est-ce que vous en avez déjà entendu parler?
Le mouvement Bérouag.
Vous n'avez jamais entendu parler de ça?
Bah non.
Bah c'est se poser en arrêt maladie pour solastologie et être en action pour l'après-effondrement. C'est une proposition d'un commentaire sur notre ancienne émission d'hier, de la semaine dernière. Qu'est-ce que vous en pensez du mouvement Bérouag?
Ah, il m'éclate celui-là. Ah, c'est bien vu. Il va être content, Bérouag, du coup. Mais pourquoi pas? Après tout, puisque on veut absolument mettre des mots sur des mots, et qu'on dit que bah, voilà, cette dépression liée à toutes ces mauvaises nouvelles dues à l'écologie forme à une nouvelle forme de dépression qui serait la solastologie, alors allons-y gaiement, mettons-nous en arrêt maladie pour solastologie, faisons-nous signer des arrêts par nos médecins traitants, pourquoi pas, on les fait valoir auprès de nos entreprises, du coup ça met beaucoup d'arrêts maladie dans une même entreprise qui du coup pourrait même arrêter de produire ou avoir une forte diminution de la production pour cause d'épidémie de solastologie. Ce serait c'est un récit très drôle mais qui me séduit pas mal, et du coup ça permettrait de dégager du temps libre pour du militantisme et reconstruire autre chose et combattre l'ennemi. Mouvement Bérouag, il y aurait quelque chose à faire avec ça.
Il y a quelque chose à faire, à rajouter. Un autre mouvement vous avez entendu parler qu'on n'aurait pas cité? Je crois qu'on a fait le tour des idées que l'humain a créées pour essayer de faire de la résilience, en fait, pour pouvoir affronter ce défi qui s'affronte, qui arrive à nous.
Il y a quand même le transhumanisme.
Ah, effectivement, bien joué.
Qui prend de plus en plus de place dans notre société actuelle par en fait, l'explosion de la haute technologie, les nanotechnologies qui sont en train d'arriver, où on arrive à de plus en plus diminuer la taille des composants.
Exactement.
Et donc, on arrivera peut-être à une époque où certains espèrent, d'autres craignent plus que tout, qu'on arrivera à ce qu'il y ait des hommes augmentés, comme on appelle, qui ont des capacités, donc soit physiques, soit intellectuelles, qui seront augmentées à l'aide d'implants cybernétiques, en fait, plus ou moins.
Mais c'est
ce qui est un peu le projet de Google actuellement.
Est-ce que ça va pas pousser plus vite l'effondrement, ou au contraire? Au contraire, dépassé.
En tout cas, c'est un autre récit. C'est celui qui est vu du point de vue du capitalisme, effectivement, et qui espère bien que tout va rester comme ça, ou qui espère bien sauver une partie de son mode de fonctionnement. En tout cas, c'est intéressant, le transhumanisme, et on pourrait même citer d'autres formes de récits et d'autres formes de prévision de l'effondrement qui sont 40 cities et 100 resilient cities, qui sont deux mouvements qui sont portés par les plus puissants de la planète, notamment Rockefeller, pour faire des grosses capitales, des capitales résilientes qui puissent pallier à toute problématique. En gros, j'essaie de sauver les gros trucs de mon capitalisme bien instructeur, j'essaie de faire en sorte que, en cas où il y a un gros coup dur, on puisse sauver au moins les capitales. Mais dans l'idée du transhumanisme, de toute façon, c'est la direction qui est prise. Moi, à chaque fois avec le transhumanisme, j'essaie toujours cette notion de temporalité, c'est de dire, c'est un peu comme l'effondrement, c'est pas à venir. Enfin, qui aujourd'hui pourrait se passer de son téléphone portable avec tout ce qui permet de faire? Qui dernièrement a fait un calcul mental un peu chiadé pour essayer de résoudre un problème? Qui dernièrement a fait
dans un lieu inconnu en prenant sa carte?
C'est ça, qui dernièrement a pris une carte Michelin, qui dernièrement a essayé de faire fonctionner sa mémoire pour essayer de se souvenir de quelque chose plutôt que d'aller dans son téléphone aller chercher la photo sur son compte Dropbox avec 10 ans d'image numérique derrière. Enfin, je pense que l'homme augmenté,
on est en plein dedans.
Ouais, on est carrément en plein dedans. Ouais.
Sauf qu'il faut avoir la notion et utiliser, bien l'utiliser. C'est encore autre chose.
Après, ouais, c'est ça, c'est pour quel avenir et quelle projection de l'avenir. Enfin, effectivement, Google, avec son université de la singularité, si je ne me trompe pas, essaie de prévoir un homme qui pourrait quasiment vivre indéfiniment, on le disait en off tout à l'heure, avec des mémoires transportables d'un corps à un autre. Enfin, ça, c'est des trucs
même
de grand, grand malade.
Même Elon Musk avec Tesla qui rêve de coloniser et terraformer la planète Mars, dont c'est son plus grand rêve.
Ce sont d'autres formes de récits. On aurait pu, effectivement. Enfin, quand tu disais tout à l'heure, je pense qu'on a fait le tour. Je pense, mais en fait, qu'il y a tellement de récits possibles post-effondrement, voire même de récits possibles sur le futur qui ne prennent pas en compte la possibilité d'un effondrement, qu'on peut y passer, je pense, un ou deux ans d'émission.
Ah oui. Bon, bah, je vous laisse, chers auditeurs, faire vos petites recherches. J'espère que les émissions vous ont donné envie, et surtout celle-là, de rechercher, de passer à l'action et voir qu'est-ce que vous pouvez faire pour ce nouveau monde et que vous avez vraiment compris quel était l'enjeu de ce siècle, en fait. Hein. C'est vraiment la préoccupation principale. Même Glamour en parle. Je vous le dis, Solastologie. Dernière article sur Glamour. Non, sincèrement, j'espère que ça vous a inspiré, que ça vous a donné envie de passer à l'action. C'était une thématique choisie par Théo. J'espère que ces trois émissions t'ont plu. C'était lui qui...
Merci beaucoup, du coup, de m'avoir donné la chance de présenter cette thématique dans ton émission.
Ben, merci à toi, c'était super intéressant. C'est le sujet qu'il ne fallait pas rater cette année. Et j'espère que ça sera une histoire perdue dans quelques années. On sera passé à autre chose. Et merci Théo Toulon d'être venu.
Ben, merci à vous de m'avoir accueilli.
Je te laisse une petite phrase de fin pour finir cette émission.
Quelles que soient vos orientations et les modes d'action que vous avez choisis, en tout cas, allez-y, mettez-vous en action, puisque maintenant l'information, vous l'avez, donc ne restez surtout pas assis sans rien faire.
Passez à l'action. Ben, merci à toi.
Merci.
Merci à vous.
Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.